Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vais passer à la phase d'optimisation pour essayer de comprendre donc, comment est-ce qu'on optimise ces réseaux de neurones et notamment quels critères utiliser. Mais avant, je voudrais commencer avec un errata sur un résultat que je vous ai donné la dernière fois, que j'ai utilisé pour faire la démonstration qui permet de montrer qu'un réseau de neurones à une couche cachée permet d'approximer n'importe quelle fonction. Alors, souvenez-vous, la manière dont j'avais fait ça, donc je vais faire cet errata rapidement. Pour faire la démonstration, on est passé par le fait qu'on commençait par approximer une fonction avec des sinus et cosinus, puis ensuite, les sinus et les cosinus, on les approximait avec le relu par une fonction linéaire par morceau. Et je vous ai donné notamment le théorème suivant, sans l'écrire explicitement. Là, je vais l'écrire explicitement en une dimension, qui dit que toute fonction continue sur moins pi pi, en dimension d, je l'avais mis sur moins pi delta, ou delta est en... Mais bon, là, ça ne changera pas grand-chose. On va mettre delta égale 1 et on va se placer en dimension 1 parce que ça ne change rien. Et donc, que toute fonction continue sur moins pi pi s'approxime uniformément par des séries de Fourier qui sont sous la forme fn de x. Ça va être donc une somme avec des fréquences qui vont aller de 0 à n, avec des coefficients cosinus alpha nx plus des coefficients de la forme sinus alpha nx. D'accord ? Et donc, le fait que j'ai une convergence uniforme, ça veut dire que pour tout epsilon positif, je peux trouver un n suffisamment grand, tel que si je prends n plus grand que ce grand n, alors à ce moment-là, le sup, autrement dit, pour tout x dans moins pi pi, eh bien, l'erreur va être plus petite entre f et fp, fn, va être plus petite que epsilon. Donc ça, ça veut dire que le sup de l'erreur sur moins pi pi est plus petit que epsilon. Et donc, voilà le résultat. Alors, ce résultat, il est vrai. Par contre, le chemin de démonstration que je vous ai proposé est complètement faux et c'est typique dans ce genre de situation, c'est-à-dire donner un argument en disant « il est évident que », d'ailleurs vérifiez-le par vous-même, et généralement en maths, quand il est évident que, c'est là où on se plante. Et alors, je me suis planté, mais visiblement, ça a choqué pas grand monde, voire personne. Donc, ce qui veut dire que personne n'a vérifié, sauf une personne qui m'a envoyé un mail en disant « mais attendez, ça ne marche pas du tout », et il a totalement raison. Donc, ça ne marche pas du tout. L'argument que j'avais donné, c'était et c'est essentiellement de dire « bon, bah, prenez pour Fn la série de Fourier de F ». Donc, la série de Fourier de F, ça veut dire que vous définissez la série de Fourier, c'est les coefficients de Fourier de F. Donc la série de Fourier va s'écrire comme ça. Et puis je prends P allant de moins n à n. Autrement dit, je tronque la série de Fourier. Et puis ce qui est effectivement vrai, c'est que comme j'ai une base orthogonale, f moins fn au carré, donc là, quand n tend vers l'infini, ça, ça va être 0. Ou là, j'ai une normale 2. Là, j'utilise la norme f carré, c'est l'intégrale de moins pi à pi de f de x dx, éventuellement que je renormalise. Donc, je vous avais dit, ça, c'est totalement vrai, et donc, vous vérifiez, c'est évident que, du coup, j'ai la convergence L2, la fonction f est continue, je vais avoir une convergence presque partout. Et alors, ça, c'est totalement faux. Ça, c'est totalement faux. Prenez un contre-exemple. Prenez, par exemple, une fonction continue sur moins pi pi, la fonction 0. OK. approximer la fonction 0 par des fonctions fn qui vont converger dans L2. Par exemple, vous divisez ça avec dpa 1 sur n, et puis donc vous prenez par exemple pour votre fonction fn la fonction qui vaut 1, et puis qui, disons, qui vaut 1 en 1 sur n, comme ceci, et puis ensuite 0. Bon, ben, cette fonction f moins fn au carré, comme f vaut 0, c'est la norme de fn. Or, ceci, disons, je vais là, comme ça vaut 1 en 1 sur n, et puis ensuite ça vaut 0 partout, la surface ici de l'écart, c'est 2 sur n, donc l'intégrale au carré, ici, comme la fonction elle est plus petite que 1, ça va être plus petit que 2 sur n. Et donc quand n tend vers l'infini, ça tend bien vers 0. Donc j'ai bien une limite de fonction qui converge en L2 vers une fonction qui est nulle, mais si je regarde le sub de l'erreur, eh ben f de x moins fn de x, d'accord, si je prends le sup de l'erreur sur x, ça vaut toujours 1, parce que la valeur elle vaut 1, alors que la valeur de la fonction f elle vaut 0. Donc ce qui est clair, c'est que ce n'est pas parce que vous avez une convergence L2 que vous avez une convergence uniforme, même si la fonction f elle est continue. Donc ça c'est un argument évidemment complètement faux. Ok, mais la raison pour laquelle le théorème est vrai, c'est que la fonction fn ici, je ne vais pas la chercher sous n'importe quelle forme, c'est une série de Fourier. Ce genre de phénomène, je ne vais pas pouvoir l'avoir. Alors la démonstration, elle est plus subtile. Elle est plus subtile, elle se fait en deux temps. Alors je vais quand même vous laisser la faire, mais je vais vous donner deux autres étapes. Je vais vous proposer deux autres étapes. La première étape, c'est de considérer la fonction f continue. Ce n'est pas très régulier, je vais prendre quelque chose de plus fort, je vais supposer si f est continuellement dérivable. Alors si f est continuellement dérivable et que je prends sa série de Fourier tronquée, là, je dis que le résultat est vrai. Donc si fn, c'est la série de Fourier tronquée, tronquée comme ceci, à ce moment-là, ce que je dis, c'est que j'ai une convergence uniforme. Autrement dit, que le sup de x dans moins pipi de f de x moins fn de x, quand ça va tendre vers 0, quand n tend vers l'infini. Alors, la raison pour laquelle c'est vrai, c'est que là, j'ai une série de Fourier, mais comme la fonction, j'ai imposé un peu plus de régularité, qu'elle est continuellement dérivable, les coefficients de Fourier, on a vu, leur décroissance dépend de la régularité de la fonction. En l'occurrence, ça va notamment impliquer que les coefficients de Fourier, ils sont intégrables, sommables. C'est-à-dire qu'ils ont de la décroissance, parce que si la fonction est continuellement dérivable, typiquement les coefficients de Fourier vont décroître comme 1 sur p au carré. Donc, je vais avoir, et donc on peut démontrer à ce moment-là qu'on a bien la convergence uniforme. La deuxième étape de la démonstration, c'est qu'est-ce qui se passe quand f est continu. Le problème, c'est que quand f est continu, cet argument ne marche pas. Je ne peux pas bêtement tronquer la série de Fourier. C'est un peu plus subtil. Si je suppose que f est continu, il faut commencer par observer qu'une fonction continue, sur moins pipi ou périodique, elle peut avoir des cusps, hein, comme ça, eh ben, je peux l'approximer avec des fonctions continuellement dérivables. Donc, c'est-à-dire que pour tout epsilon positif, je peux trouver une fonction f tilde qui est C1, continuellement dérivable, telle que f de x moins cette fonction f tilde de x soit plus petite que epsilon pour tout x. Alors ça, c'est le fait qu'une fonction continue sur un compact s'approxime donc par une fonction dérivable. Ça, c'est un cas particulier, par exemple, du théorème de Weierstrass, qui dit que toute fonction continue sur un compact peut s'approximer uniformément par des polynômes. Les polynômes, c'est des fonctions C infini, donc a fortiori, je suis capable de l'approximer par une fonction qui va être C1. D'accord ? Donc la première idée, c'est de dire, OK, ma fonction, je commence par l'approximer par une fonction qui est un peu régularisée, et je peux le faire avec une erreur qui va être epsilon en tout point. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je peux appliquer le résultat précédent, c'est-à-dire je vais prendre la série de Fourier de la fonction continuellement dérivable. C'est-à-dire je peux trouver une série de Fourier telle que f tilde de x moins la série de Fourier qui est définie ici, c'est-à-dire c'est la série de Fourier tronquée de f tilde, ça soit plus petit que epsilon. Et donc évidemment, du coup, je vais avoir que f de x moins la série de Fourier de f tilde va être plus petite que 2 epsilon, et donc effectivement, je peux approximer ma fonction f de x par une série de Fourier. La seule chose qui est un petit peu subtile, c'est que la série de Fourier ici, c'est pas la série de Fourier de f. Juste pour vous donner une intuition de qu'est-ce qui peut se passer. Alors là, je vous donne dans le cas brutal d'une discontinuité. Dans le cas d'une discontinuité, la série de Fourier peut avoir un overshoot comme ça et ne pas converger uniformément. Donc, dans le cas des fonctions continues, ce qui se passe, c'est qu'on a besoin de passer par une fonction continuellement dérivable pour calculer sa série de Fourier et ensuite pour avoir l'approximation de f de x. Une autre manière de dire, c'est ce que dit ce théorème, c'est que les séries de Fourier sont denses dans l'espace des fonctions continues pour la norme de convergence uniforme. Mais encore une fois, si on a simplement une hypothèse de continuité, l'approximation par des sinus et des cosinus, elle ne se fait pas directement en tronquant. Il faut passer par une fonction un petit peu plus régulière. Alors, ceci étant, tout le reste de la démonstration que je vous avais donnée ensuite suit. Les sinus et les cosinus sont approximés par des relus, donc on est bien capable d'approximer n'importe quelle fonction par un réseau de neurones à une couche cachée. Ce qui se passe en une dimension, ça se passe pareil en dimension multiple. Moralité de l'histoire, faire attention, les maths, les choses triviales ne le sont pas. D'ailleurs, ce n'est pas un bon mot, trivial. Très souvent, c'est là qu'on cache les choses les plus subtiles. Donc voilà, désolé pour l'erreur, et puis juste essayez de vérifier les choses. Si vous avez envie de voir ce qu'il y a derrière les arguments que je donne souvent rapidement, ça vaut le coup parce que je me plante régulièrement. Donc comme ça, vous aurez moins de chances d'accepter des choses qui sont totalement fausses. Voilà, donc ça c'était ce commentaire, ça c'est typiquement un exercice d'analyse. Voilà, c'était un commentaire sur cette histoire de convergence uniforme. Et donc, merci à la personne qui m'a envoyé ce mail. Maintenant, je voudrais revenir sur le déroulé du cours et revenir sur le problème un peu plus algorithmique maintenant d'optimisation des réseaux de neurones. Comment on va faire pour optimiser ces réseaux de neurones? Et là où ce n'est pas évident, c'est en particulier, au départ, de bien poser le problème dans le cas de la classification. Alors, on peut voir le problème de façon assez générique, comme les problèmes de classification en général. Donc, j'ai une grande boîte avec un très grand nombre de paramètres θ, qui sont ici les matrices, les poids de mon réseau de neurones, ainsi que tous les biais. À partir de ça, je vais calculer l'estimation de ma réponse pour un problème, par exemple, de classification, qui va être une certaine fonction de x. Alors, il se trouve que si on a un problème de classification, les choses sont quand même un peu difficiles parce que qu'est-ce que c'est que le Y ? Donc, on a un X, on a un label Y, et Y, c'est un index. Contrairement au problème de régression où on est bien dans R, on peut parler de continuité, etc., ça, c'est un chat, c'est un chien, c'est une poule, c'est une maison. Il n'y a pas d'organisation. Donc, vous allez dire classe 1, 2, 3, 4, 5, mais votre numérotation, elle est complètement arbitraire. D'accord ? Donc, il n'y a pas de topologie naturelle sur Y. Et donc, d'essayer de définir des notions de continuité sur la fonction, si vous voulez voir Y comme une fonction de X, cette fonction f, elle n'a aucune régularité, parce qu'il y a un moment, boum, vous allez sauter de chien à chat à poule, etc. Donc, ce n'est pas là-dessus qu'on va pouvoir commencer à penser des notions de régularité. Et puis, si je pose le problème d'un point de vue purement algorithmique, ce que je vais essayer de faire, c'est définir un risque entre le y tilde que j'ai estimé et le vrai y. Alors, quand on a un problème de classification, typiquement le risque, c'est la fonction de perte 1, 0, c'est-à-dire si y tilde est égal à y, alors, je vais plutôt l'écrire comme ça, la valeur du risque, ça va être 0 si y tilde égale y, pas d'erreur. Et puis, si jamais y tilde n'est pas égal à y, je vais dire que l'erreur elle est égale à 1. D'accord ? Donc ça, c'est typiquement la fonction de coût 0, 1. Alors, si vous voulez calculer l'erreur totale à partir d'une base de données que vous avez, donc vous avez des xi, des yi comme ceci, i plus petit que n, vous allez avoir, à partir de ces données empiriques, pour un certain paramétrage de votre état de votre algorithme, eh bien, vous allez avoir une erreur moyenne qui va être 1 sur n, somme sur tous les i, des risques entre le vrai yi et puis le y qui a été obtenu à partir de votre fonction fθ à partir des données xi. D'accord ? Et ça, typiquement, vous voyez typiquement en apprentissage, on voit ça quand i va devenir très, quand n, le nombre d'exemples devient très grand, ce qu'on espère, c'est que ça va converger vers l'erreur moyenne. Donc le risque moyen, c'est donc l'espérance sur la distribution des x et des y du risque entre y et fθ de x. D'accord ? Donc ça, c'est le risque. Au fond, ce qu'on aimerait, c'est minimiser le risque moyen, quelles que soient les données, parce qu'on a, c'est une mesure empirique, et on voudrait minimiser ce risque. Okay. Alors, quel est le problème ? Les types d'algorithmes qu'on va utiliser dans le cas des réseaux de neurones, ça va être typiquement des algorithmes de descente de gradient. Donc, ce qu'il vous faut, c'est updater à chaque itération le risque en updatant θ, et pour ça, il faut que cette fonction de risque soit différenciable. Or, le R ici, c'est une fonction qui n'est absolument pas différenciable. De toute manière, encore une fois, le Y, c'est à quelques valeurs discrètes, donc on voit bien qu'il n'y a aucune notion de régularité, donc on ne va absolument pas être capable de faire directement une descente de gradient là-dessus. Donc, tout le problème, c'est d'essayer de retrouver dans ce problème-là les quantités qui sont régulières et qu'on va pouvoir estimer, du coup, d'abord avec des fonctions fθ qui ne demandent pas trop de paramètres, parce qu'en sous-jacent, on va estimer une fonction régulière, et puis, du coup, définir un risque qui va être une fonction régulière de θ et donc qu'on pourra différencier et sur laquelle on va pouvoir faire une descente de gradient. Donc, question. Dans le cas de la classification, où encore une fois, le y n'est pas du tout une fonction régulière de x, quel est l'objet régulier qu'on peut extraire à partir duquel on va pouvoir faire de l'estimation et travailler? Et ça, c'est donné par essentiellement l'approche bayésienne. Alors, je vais d'abord vous montrer le classificateur de Bayes et le principe de maximum de vraisemblance. Donc, ces principes, là, vraiment, je les sors de la nécessité d'arriver à se résoudre ce problème qui est d'exhiber un objet régulier que je peux estimer. D'accord ? Alors, on peut d'abord se poser la question, ok, là, j'ai un risque qui est la valeur moyenne sur la distribution de toutes les paires x, y de R du risque entre Y et un Y tilde que je vais calculer à partir de X. Et la question que je peux déjà me poser, c'est quelle est la meilleure approximation Y tilde de X que je peux avoir de Y. D'accord ? C'est quoi l'idéal ? Alors l'idéal, pour le calculer, ce que je peux observer, c'est qu'une espérance par rapport à x, y, je peux la conditionner, c'est-à-dire déjà prendre l'espérance par rapport à x, et donc voir ça comme une somme sur tous les y du risque de y par rapport à la fonction y de x, multiplié par la probabilité d'apparition de y à x fixé, sachant x. D'accord ? Je peux toujours écrire mon espérance à loi jointe comme étant l'espérance conditionnée sur x de la distribution de probabilité de y conditionnée sur x. Alors, ce qu'on sait ici, c'est que le risque, il vaut soit 1, soit 0. D'accord ? Et ce que je voudrais, c'est minimiser ceci. Donc, pour le minimiser, ce qu'il faut, c'est que quand ceci vaille 0, vaudra 0, eh bien la probabilité ici va être maximum. Ce que je sais, c'est que toutes ces probabilités, elles sont évidemment positives, et la somme des probabilités, si je somme sur tous les y, ça vaut 1. Donc si je veux minimiser cette quantité, ce que je veux, c'est que le risque y soit 0 pour annuler la valeur ici qui est maximum. Quand P autrement, pour que ceci vaille 0, il faut que y tilde soit, je te verrai. Oui, je n'aurais pas dû l'écrire. Comme ça, ça ne va pas. Je veux que le risque soit 0 quand la probabilité soit maximum. Donc si le risque vaut 0, c'est quand y est égal à y tilde. Et donc, il faut que quand y soit égal à y tilde, la probabilité soit maximum. Donc, il faut que la probabilité de y tilde sachant x soit le maximum des probabilités de y sachant x. Autrement dit, il y a cette idée qui est très simple, et on appelle ça le classificateur de Bayes. Qui définit tout simplement la classe y tilde que je vais choisir comme étant la classe la plus probable. Étant donné l'observation, je vais choisir le y qui a une chance maximum d'apparaître étant donné l'observation de x, et ça, ce sera le meilleur choix qui va minimiser l'erreur en moyenne. D'accord ? Donc, ça, c'est le classificateur idéal, mais évidemment, pour définir ce classificateur idéal qui va minimiser l'erreur, il faut connaître la distribution de probabilité de y sachant x. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend ce problème qui était initialement d'estimer directement le y et on le transforme en un problème qui consiste à approximer la distribution de probabilité de y sachant x. Donc, ça, je veux le définir pour tout Y. Donc, par exemple, si j'ai un problème avec 10 classes, eh bien, pour tout Y entre 1 et 10, il va falloir que je définisse cette fonction. Donc, je vais avoir 10 fonctions, et ça, c'est une fonction de X. D'accord ? Et donc, ça, c'est une certaine fonction que je peux appeler G indice Y de X. D'accord ? Et ça, c'est la fonction que je vais estimer. Mais là, tout d'un coup, j'ai des fonctions qui vont être bien régulières, bien structurées. Et donc, je suis passé d'un problème où j'avais quelque chose de totalement déstructuré, qui est cette classe qui vit dans un espace qui n'a aucune structure, à l'estimation de densité de probabilité, qui sont des fonctions régulières, normalisées. Et donc, l'idée, c'est maintenant de dire, OK, je vais essayer d'approximer ces probabilités conditionnelles. Et donc, mon réseau de neurones, je vais le voir comme une machine qui approxime des probabilités conditionnelles. Donc maintenant, la sortie de mon réseau de neurones, ce que je voudrais, c'est que ce soit une distribution de probabilités qui va dépendre. Donc à partir de ça, ce que je vais définir, c'est une distribution de probabilités, en fait. C'est ça que je voudrais que mon réseau de neurones calcule. D'accord ? Donc, c'est une fonction de X pour tout Y. Et mon problème maintenant, c'est de Y sachant X, c'est d'évaluer l'erreur entre cette distribution de probabilité et la distribution de probabilité qui est la bonne, qui est celle-ci. Et ce que j'ai envie, c'est de définir une métrique qui donne la distance entre ces deux distributions de probabilité. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est choisir le θ qui va minimiser cette métrique. Donc, on a introduit encore une fois une étape intermédiaire qui est l'estimation des probabilités conditionnelles. Et maintenant, on va essayer d'estimer ces probabilités conditionnelles. Alors, quelle métrique et comment faire l'estimation ? C'est là qu'apparaît la notion de du maximum de vraisemblance. Et ce qu'on va voir, c'est que le maximum de vraisemblance est une approche pour minimiser une telle erreur, et minimiser une telle erreur par rapport à une distance particulière qui est la divergence de Kullback-Leibler. Donc, je vais d'abord prendre l'approche du maximum de vraisemblance qui est tout à fait intuitive. Donc, le principe de maximum de vraisemblance est le suivant. Donc, ce que je veux, c'est approximer une densité de probabilité qui est P de Y sachant X. La seule chose que j'observe, c'est une famille de données, c'est des XI et des YI. D'accord ? Et ces données, je veux les expliquer avec une probabilité qui va être paramétrée sous cette forme qui a été produite par exemple, mon réseau de neurones. Et la question, c'est quel est le meilleur paramètre ? L'idée intuitive, c'est que si jamais ce que je voudrais, c'est que cette séquence, si elle était générée par cette distribution de probabilité, soit la plus probable possible. Autrement dit, le principe du maximum de vraisemblance, ça consiste à choisir un θ optimum tel que la proba des données soit maximum pour cette distribution de probabilité. Alors, ce que je vais supposer, c'est que les données sont toutes indépendantes. Donc ça, on suppose ça tout de suite, toujours, quand on fait de l'apprentissage statistique, c'est-à-dire que les données ont été obtenues comme des réalisations indépendantes de processus aléatoire qui associe x et y. Donc, si les données, quelle est la probabilité d'observer un yi étant donné l'observation xi? Si j'ai une loi de probabilité θ, ben c'est tout simplement pθ de yi sachant x. Maintenant, quelle est la probabilité d'observer n données comme ça, si elles sont toutes indépendantes, ben ça va être le produit de toutes ces probabilités. Donc ça va être le produit de i égale 1 à n des pθ de xi, y. Donc, le paramètre qui maximise la vraisemblance des données, c'est le θ étoile qui maximise ceci sur tous les θ. Donc on prend le paramètre qui correspond à la densité de probabilité qui va être maximum sur l'observation des données. Donc maintenant, je veux maximiser un produit. Maximiser un produit, c'est la même chose que maximiser le log du produit. Et comme le log du produit, c'est la somme des logs, c'est la même chose que maximiser la somme sur θ du log des pθ de yi, sachant xi. Et puis, je peux toujours rajouter un facteur de renormalisation 1 sur n, ça ne change rien. Mais ça, comment est-ce que je peux le voir? Ça, c'est une somme sur i, de 1 à n. C'est une moyenne du log des probabilités conditionnelles. Donc, ça, je peux le voir tout simplement comme étant l'espérance du log de la probabilité de θ de y sachant x relativement à la distribution xy empirique, c'est-à-dire les xy qui correspondent à mes données. C'est ce qu'on appelle la distribution empirique. Donc, c'est comme ça que je vais choisir mon θ. D'accord ? Donc, le θ, qui est donc le maximum de vraisemblance, il est donné par ce principe. Et ce qu'on voit, c'est que, en fait, ça revient à maximiser le log, l'espérance du log de la probabilité de θ relativement à la distribution empirique des données. OK. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que on peut voir ce principe de maximum de vraisemblance, qui est un résultat très classique, comme étant une minimisation d'une distance particulière sur des densités de probabilité. Alors, il y a cette notion de distance de Kullback. Donc ça, c'est une distance qui s'appelle aussi une distance d'entropie relative, qui est très utilisée pour comparer des distributions de probabilité en théorie de l'information. Donc je vais vous donner la définition. Quand vous avez deux distributions de probabilité P et Q, on l'écrit comme ceci, ça va être l'espérance relativement à la distribution P de log de P sur Q. Autrement dit, ça va être l'intégrale du log de P de X sur Q de X fois la probabilité de densité P dx. Alors, cette distance, elle a toutes sortes de propriétés. Une première propriété que je vous laisse vérifier que c'est bien quelque chose qui est toujours positif, elle est pas symétrique, d'accord ? Vous ne pouvez pas inverser Q et P. Vous voyez que cette formule, elle est asymétrique, parce que le P, il apparaît ici, alors que le Q, il apparaît ici. Une manière intuitive de la comprendre, c'est que ça, c'est le nombre de bits supplémentaire. Alors, je vais recommencer. Imaginez que vous ayez une source de symboles produite par une distribution P de X. Donc vous voyez des symboles apparaître avec une distribution P de X. Et que vous vouliez coder de façon optimale ces symboles. Et que ce qu'on vous donne comme information, ce n'est pas la distribution P de X, mais c'est la distribution Q de X, parce qu'il y a eu une certaine erreur. Si vous allez faire un codage optimal, comme vous avez une erreur sur l'information de la distribution de probabilité, vous allez avoir une certaine inefficacité. L'inefficacité en termes de nombre de bits, c'est exactement, désolé, donné par cette distance de Kullback-Leibler. Pourquoi ? Parce que le code optimum, qui serait le code de Shannon, en fait, à chaque X, on associe un mot binaire qui a cette taille-là, et ce que vous allez faire, c'est au lieu d'associer un mot binaire qui a cette taille-là, vous allez associer un mot binaire qui a cette taille-là, et donc la différence entre les deux, ça va être le log du rapport, et en moyenne, eh bien, vous allez avoir une efficacité si X est produit avec une probabilité P de X qui est donnée par ceci. Donc ça, c'est une interprétation, il y en a beaucoup de cette distance qu'on voit apparaître absolument partout en théorie de l'information. Ce qui est important, c'est que si la distance est nulle, alors forcément, je vous laisse vérifier, P est égal à Q. Donc, essayez de minimiser la distance, ça fait du sens parce que ça va bien avoir tendance à rapprocher les deux distributions de probabilité. Donc, c'est une distance très naturelle et donc, ça peut faire du sens de se dire, après tout, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'approximer ma distribution, P de Y sachant X à partir de, par exemple, mon réseau de neurones, on pourrait essayer de minimiser la distance de Kullback-Leibler. Ce qu'on va voir, c'est que c'est exactement ce que fait le maximum, principe du maximum de vraisemblance. Autrement dit, ce qu'on va montrer, c'est la proposition suivante. Théorème, si on veut. C'est que le maximum de vraisemblance va minimiser la distance de Kullback-Leibler entre la distribution des données, donc la distribution empirique, et la distribution Pθ pour tous les θ. Donc autrement dit, le maximum de vraisemblance, ça va être θ étoile, c'est argmin sur tous les θ, de la distance de Kullback-Leibler autrement dit prendre le maximum de vraisemblance c'est essayer d'expliquer au mieux les données observées avec le meilleur paramètre possible au sens d'une distance entre les distributions de probabilité qui est donnée par ceci. Alors comment est-ce que ça se vérifie c'est assez immédiat, il suffit de calculer cette distance de Kullback-Leibler, donc entre les données, la distribution empirique des données, et la distribution P indexée par θ qu'on veut optimiser. Donc, cette distribution, je peux la voir comme ce que j'ai écrit là-bas, l'espérance par rapport aux données, distribution des données, du log de, alors, du log des rapports, que je peux écrire comme le log des données, moins le log de Pθ. Alors, ici, c'est des données de Y sachant X, et là, le Pθ, ça va être de Y sachant X. Alors, maintenant, ce que je veux, c'est minimiser ceci. D'accord ? Et minimiser ceci relativement à mon paramètre θ. Je veux trouver la distribution qui explique au mieux la distribution des données. Bon, là, j'ai deux termes. Ça, j'ai l'espérance du premier terme moins l'espérance du deuxième terme. Mais le premier terme, il ne dépend pas de θ. Donc, si je prends θ étoile, ça va revenir à minimiser le deuxième terme. Et minimiser le deuxième terme, c'est moins l'espérance par rapport à l'espérance des données du log de Pθ de Y sachant X. D'accord ? Mais ça, c'est exactement le maximum des vraisemblances. D'accord ? Donc, qu'est-ce que ceci montre ? C'est que choisir le paramètre θ qui maximise la vraisemblance des observations, c'est la même chose que de trouver une distribution de probabilité qui minimise la distance relativement à la distribution de probabilité empirique des données. Alors, juste un petit commentaire. Pourquoi est-ce que tout d'un coup... Il y a un point sur lequel je voudrais insister, parce que quand on regarde toute cette littérature en machine learning, on voit constamment deux points de vue. On voit un point de vue déterministe, que j'avais pris au départ en vous disant, voilà, après tout, je vais avoir une réponse y qui est une fonction de x, y égale f de x, donc ce que je dois faire, c'est approximer une fonction. Et là, je ne pense pas à des probas, etc. Je pense à des problèmes d'approximation de fonctions. C'est quelque chose de complètement déterministe. Et puis, souvent, vous lisez la littérature et boum, on se place dans un cadre qui est complètement probabiliste, bayésien. Et ce qu'on est en train de faire, c'est d'approximer des densités de probabilité. Ce que je voudrais simplement montrer, c'est que ces points de vue, et insister, ils sont vraiment complètement... équivalent au sens où on va passer naturellement de l'un à l'autre pour sortir le bon objet qu'on va pouvoir estimer. Si jamais on est dans un problème de régression et que y égale f de x, f c'est une fonction bien régulière, ben on n'a pas besoin de passer par ces distributions de probabilité, on peut ignorer le problème d'un point de vue probabiliste. Mais quand on est dans un problème de classification, comme je le disais tout à l'heure, les distributions de probabilité, elles apparaissent naturellement parce que c'est une fonction, une manière de plonger le problème et dans un domaine où j'ai tout d'un coup des fonctions régulières qui apparaissent, et ces fonctions régulières qui apparaissent sont les densités de probabilité. Donc c'est vraiment ça qui fait que tout d'un coup, je vais me retrouver dans ce cadre qui est un cadre probabiliste. Alors, là, j'ai donc trouvé mon critère. Et à partir de ce critère, je vais pouvoir essayer de définir une fonction de coût. L'idée, c'est que le risque, essentiellement, je vais le définir à partir de cette distance de Kullback-Leibler. Et ce que je vais essayer, c'est de trouver le θ qui va minimiser cette distance. Autrement dit, le θ optimal ici, c'est celui qui va minimiser la distance et donc... calculer ou se rapprocher du maximum de vraisemblance. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que ceci se compare par rapport à une vision bayésienne du problème ? Alors, la vision bayésienne du problème est un petit peu plus riche, au sens où elle demande un peu plus d'informations, au sens suivant. Alors, je vais juste vous faire commentaire la relation avec les modèles bayésiens. Alors, dans un modèle bayésien, vous avez des données. Donc, mes données, c'est les couples XY. D'accord ? Disons, je vais l'appeler W, ici, par exemple, mes données. Et puis, l'idée, c'est d'essayer d'expliquer... un paramètre θ qui va définir un modèle de ces données. Et dans un cadre bayésien, ce qu'on voudrait, c'est calculer la probabilité de θ étant donné l'observation des données. Donc, qu'est-ce que... l'approche bayésienne va essayer de faire, c'est de trouver le θ qui est le plus probable étant donné l'observation des données. Ça, c'est ce qu'on appelle le maximum a posteriori. Et la loi de Bayes, elle dit cette probabilité conditionnelle de θ étant donné les données, c'est la même chose que la probabilité des données étant connue θ fois la probabilité de θ divisée par la probabilité des données. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est de calculer le max sur θ de ceci. Et le max sur θ de ceci, c'est la même chose que le max de θ du rapport. Le max de θ du rapport, le nominateur dépend de θ, le dénominateur ne dépend pas de θ. Donc la probabilité des données, en fait, elle ne joue absolument pas dans le problème. Donc ce qui nous intéresse, c'est la probabilité des données étant connue, sachant θ, fois p de θ. Maintenant, si on est dans le cas particulier où on n'a aucune information sur quel est le paramètre θ le plus probable, alors, à ce moment-là, on va dire que tous les... Pθ, c'est la probabilité a priori. La probabilité a priori, c'est la probabilité qu'on a sur les différents modèles. Est-ce qu'il y a un modèle qui est plus probable que l'autre? Si la probabilité a priori est constant, alors, ça ne dépend pas de θ. Donc, maximiser ça, donc si P de θ égale constante, c'est la même chose que maximiser sur θ la probabilité d'observation des données étant donné θ. Et ça, c'est exactement le maximum de vraisemblance. Autrement dit, le principe du maximum de vraisemblance, il est équivalent avec une approche bayésienne où on n'a aucune information a priori. Quel est le θ qui est a priori plus probable que tel autre θ? Si on a une information, donc supposons à l'inverse que le pθ et θ ne sont pas constants. Maximiser la probabilité, c'est la même chose que maximiser le log de la probabilité. Et maximiser le log de la probabilité, comme la probabilité, c'est le produit de ces deux termes, ça va être la somme de deux termes. La probabilité des observations, excusez-moi, je vais écrire mieux, des données sachant θ, plus le log de P de θ. Donc ce que vous voyez, c'est que le point de vue bayésien, en fait, il revient à maximiser, là on retrouve le maximum de vraisemblance, mais là, il y a un terme en plus, et ça, c'est un terme de pénalisation. Ce terme de pénalisation, il apparaît dans les fonctions de coût qu'on introduit souvent sur les réseaux de neurones, parce que typiquement, la fonction de coût, très souvent, ça ne va pas être simplement une somme sur le risque, mais quelque chose qui va aussi dépendre de θ. Et ce quelque chose, par exemple, très souvent, c'est on utilise, par exemple, la norme quand vous avez un réseau de neurones avec des matrices WK. Vous voulez que les coefficients des matrices ne soient pas trop grands, et donc vous faites une pénalisation. Ça, c'est votre C de θ. C'est-à-dire que θ, dans le cas des réseaux de neurones, il dépend de toutes les matrices linéaires qui régissent le passage d'une couche à l'autre. Dire que vous voulez un réseau de neurones avec des matrices qui ont des coefficients pas trop grands, eh bien, on peut l'exprimer en pénalisant avec une normale 2 comme ceci. Et donc, ça veut dire que vous mettez une condition supplémentaire sur les paramètres que vous voulez minimiser. Et cette condition supplémentaire, eh bien, un bayésien va voir ça comme en fait une information a priori sur le paramètre θ et va voir ça comme un log de P de x. Ou un moins log de P de x. Alors, si vous avez une norme L2, si log de P est une norme L2, en fait, on va tomber sur une distribution gaussienne. Ça, je vais le montrer dans un autre cas particulier. Mais tout ça, c'est pour dire que les points de vue, une fois qu'on a exprimé cette fonction de coût, avec un terme de régularisation, ça peut se voir complètement comme un modèle bayésien. Et donc ça, c'est juste une histoire d'interprétation. À nouveau, on peut le voir de façon déterministe, comme on l'a fait jusqu'à maintenant en disant « Oui, mais quand on va minimiser les normes de ces opérateurs, par exemple, quand on fait un classificateur linéaire, ça consistait à maximiser la marge, donc écarter le plus possible les observations, trouver le modèle qui écarte le plus possible les observations. » Une autre manière de le voir, c'est comme un a priori bayésien sur le problème. Voilà, donc ça, je voulais juste relier ces points de vue pour vous dire on n'est pas en train de faire des choses différentes, il y a des ponts très naturels de l'un à l'autre, mais dans le cas de la classification, c'est un point de vue qui est vraiment efficace. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va se passer si on fait de la régression? Est-ce que si on fait de la régression, les deux points de vue vont diverger? Alors, je voudrais juste vous montrer que dans le cas de la régression, on va retomber sur les mêmes idées. Alors, je vais le faire. Ici. Donc, si j'avais un problème de régression, je ne me serais pas embêté avec tout ça. Je vous aurais dit directement, Y, c'est une certaine fonction de X, qui est un réel. Je vais calculer un Yθ qui va être mon Fθ de X. D'accord ? Et ce que je voudrais, c'est minimiser le risque, l'erreur entre y et entre ces deux fonctions. Et en moyenne, autrement dit, je vais minimiser la norme L2 des différences entre l'estimation et la vraie quantité. Alors, quel est le lien avec un maximum de vraisemblance? L'idée dans le cas d'un maximum de vraisemblance, c'est que, ok, votre réseau a calculé un y de θ de x, mais à ce y de θ de x, vous voulez associer une distribution de probabilité de y sachant x. Et une manière d'associer une distribution de probabilité, c'est de dire, bon, là j'ai une valeur, mais je ne suis pas sûr de la vraie valeur qui va être produite en général, donc je définis une distribution de probabilité qui est gaussienne autour de cette valeur. E puissance moins x de... Et excusez-moi, le min... Attendez, je vais revenir là-dessus. Donc, ce que je dis, c'est que si mon réseau vous donne une sortie y θ de x, je peux lui associer la distribution gaussienne qui est centrée sur la moyenne y θ de x, mais qui a une certaine incertitude donnée ici par la variance. Maintenant, si je dis effectivement le réseau calcule en fait des densités gaussiennes centrées sur ces valeurs y de x, je peux maintenant essayer de calculer le meilleur θ en maximisant la vraisemblance, autrement dit, en minimisant cette distance de Kullback-Leibler. Donc, ça veut dire trouver le θ qui minimise l'espérance du log de pθ. Ou maxi... Donc, moins le log de pθ de y sachant x, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une constante. Donc la constante, si ce qui m'intéresse, c'est de minimiser ceci, la constante, je peux l'oublier parce qu'elle ne dépend pas de θ. Or, mon problème, c'est de trouver le meilleur modèle. Ça va être la même chose que de faire une minimisation relativement à θ de log avec un signe moins de ceci. Et là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir y θ de x moins y carré sur 2 sigma carré. Le 2 sigma carré, il ne joue pas. Et donc, ce qu'on voit, c'est que si on veut minimiser l'erreur empirique, ça va être équivalent à minimiser la somme sur i des y θ de xi moins y carré. C'est là, i, cette somme, c'est la somme sur i. Et ça, c'est exactement équivalent à faire prendre le maximum de vraisemblance . Donc, une manière d'interpréter la minimisation d'une erreur quadratique, c'est de dire, en fait, en sous-jacent, on a une distribution de probabilité gaussienne centrée sur l'estimateur que me donne le réseau. Et si je calcule le log de la proba, ben le log d'une exponentielle, ça va me donner directement l'erreur quadratique entre la valeur de y et yθ. Et donc, si je minimise cette erreur, ça revient à tout simplement minimiser l'erreur quadratique. Donc, on voit que ce qu'on faisait avant, en disant directement, je vais prendre l'erreur L2 parce que c'est pratique, une autre manière de le traduire, c'est de dire on estime des densités gaussiennes et on prend ce point de vue de distance de Kullback-Leibler. Ceci étant, dans ce cadre-là, ça n'apporte pas grand-chose. Par contre, encore une fois, dans le cadre de la classification, ça apporte vraiment quelque chose parce que ça fait apparaître une distance naturelle, ce qu'on n'avait pas a priori. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on va mettre ça en musique pour un réseau de neurones? Alors, pour un réseau de neurones, je vais peut-être laisser ça, il va falloir calculer cette densité de probabilité. Donc, la manière dont on va configurer le réseau, mais ça, c'est un principe qu'on peut retrouver pour un peu n'importe quel classificateurs, en tout cas une large gamme de classificateurs. C'est donc, on a les données X, on a le réseau θ qui va nous sortir pour chaque valeur Y, donc il y a différentes valeurs Y, il va nous sortir des valeurs. Et ces valeurs, on aimerait pouvoir les interpréter comme étant des probabilités de Y sachant X pour le choix particulier de paramètre θ. Encore une fois, dans le cas de mon réseau de neurones, le paramètre θ, c'est l'ensemble de toutes les matrices linéaires de tous les poids et aussi tous les biais que j'utilise, donc tous les paramètres du réseau. Le problème, c'est qu'il y a une propriété quand même qu'ont les densités des distributions de probabilité, c'est qu'elles sont normalisées. Si je fais la somme sur tous les Y de la probabilité de Y sachant X, eh bien ça, c'est 1. Le réseau de neurones, il va me sortir a priori une valeur, Z, que je vais appeler pour la position Y, Z indice Y, qui va dépendre de X, qui n'a aucune raison d'être normalisée. Donc j'ai besoin d'une dernière étape ici, qui va être une étape de normalisation. Donc ce que j'ai besoin, grosso modo, c'est de sommer, de m'assurer que la somme des sorties à travers tous les Y va sommer à 1. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ensuite, ce que je vais dire, c'est que là, le meilleur sortie, ça va être encore une fois le meilleur Y pour le choix optimal de paramètres Y sachant X. C'est-à-dire, je vais prendre, comme un classificateur bayésien, la classe qui maximise la probabilité d'observation des données étant défini le paramètre trage optimal de mon réseau. Donc, question, comment est-ce qu'on fait cette normalisation? Il y a une façon tout à fait standard d'effectuer cette normalisation qui est d'utiliser ce qu'on appelle un softmax. Et je vais expliquer pourquoi ce softmax est naturel lorsque on veut faire une optimisation, notamment avec une descente de gradient. Donc, le softmax, il va associer à ZY de X, disons à une certaine valeur, il va associer une valeur PZY qui va être définie comme étant une quantité normalisée. Donc, ça va être l'exponentielle de ZY divisé par la somme sur tous les Y' des E de ZY'. Donc ce que je fais, c'est non pas ce qu'on aurait pu imaginer comme étant naturel, c'est de prendre ZY divisé, normalisé. Ça, c'est quand même la première idée qui vient à l'esprit, c'est de normaliser les sorties. La seule chose, c'est que les Z, ils ne sont pas forcément positifs. Donc ça, ce n'est pas forcément une bonne idée. Ça, ça permet de les rendre positifs. Mais ça, ça a une autre fonction. C'est que si Z est le max, si vous avez en un certain endroit un Z qui est un max, quand vous prenez l'exponentielle, ça va le détacher des autres et ça va le rendre d'autant plus grand. C'est-à-dire que on va avoir que P de Z de Y va être de l'ordre quasiment de 1, parce que ça, ça va totalement dominer la somme si Z de Y est le max, typiquement, des Z de Y' pour tous les Y'. Disons, si c'est un max avec une certaine marge. L'exponentielle, elle va augmenter l'écart, et donc ça va tendance à piquer la distribution de probabilité. Donc ça, c'est une manière de voir l'intérêt de cette exponentielle. On va voir que l'intérêt de cette exponentielle, c'est de défaire aussi le log qui apparaît dans le max de vraisemblance. Alors, je vais prendre cette exponentielle et puis on va regarder ce qui se passe quand maintenant on utilise ce modèle et qu'on le met dans le... dans une fonction de coût qui maximise la vraisemblance. Encore une fois, maximiser la vraisemblance, c'est la même chose que minimiser la divergence de Kullback-Leibler. Alors, on va la calculer. Donc, on va calculer la divergence de ce qu'on veut minimiser, d'accord, que j'avais mis ici, c'est moins, alors je vais avoir la somme sur tous les i, je voudrais minimiser moins log de pθ de l'observation de yi, sachant xi. D'accord ? Et ici, le modèle qu'on va utiliser, c'est que pθ de y sachant x, eh bien, c'est l'espérance, c'est l'exponentielle de z de y, dépend donc de x, divisé par la somme normalisée de toutes les Donc, ceci, c'est le minimum de la somme sur i. Alors, j'ai un log d'un rapport de deux quantités. Donc, je peux écrire que c'est moins le log de la première, mais log d'une exponentielle, ça va me donner la quantité ici. Donc, je vais avoir z de yi de xi, avec un signe moins. Et puis, il y a la deuxième quantité, donc le log de ceci. J'ai un signe moins, mais ça, c'est au dénominateur, donc moins fois moins, ça fait plus. Et donc, je dois avoir le log de la somme sur y prime des exponentielles de z pour toutes les classes y prime de xi. Et ça ferme ma parenthèse. Donc, ce que je veux, c'est minimiser ce maximum de vraisemblance qui revient à minimiser ceci. Minimiser ceci, donc on a maintenant la fonction de coût, ça dépend de θ, et donc je peux l'écrire, je vais sortir le signe moins ici, je vais le réécrire. C'est donc trouver je ne sais pas si ça sert à quelque chose d'écrire comme ça. Donc trouver le θ qui va me donner un réseau. Et là, ce que vous voyez, c'est que dans la fonction de perte, on voit directement la valeur sortie par le réseau moins un terme de normalisation qui est le même pour tous les y. Donc, ce qu'on voit apparaître, c'est qu'un des intérêts de mettre l'exponentielle là, c'est que là, on a un log, l'exponentielle est éliminé par le log, et dans la fonction de coût, on voit directement la valeur. Pourquoi ça va être intéressant? Parce que maintenant, quand je vais calculer la dérivée par rapport à θ de cette loss, ça va revenir à dériver directement par rapport à θ la valeur de la sortie du réseau. Et donc là, je vais avoir quelque chose qui est bien conditionné. C'est-à-dire une petite variation de θ va me donner, on l'espère, une variation non négligeable de la sortie du réseau. Si jamais vous avez à la sortie dans votre fonction de coût quelque chose qui est une exponentielle, vous allez créer une instabilité quand vous allez calculer votre dérivée. Donc, un des intérêts, une manière de le voir, c'est que comme on a pris ce formalisme de maximum de vraisemblance où on calcule un log d'une proba, on a intérêt à ce que dans la proba, il y ait une exponentielle par rapport à la valeur non normalisée, et c'est ça que ceci produit. Alors, ça s'appelle souvent un softmax. Pourquoi? Si vous voulez donc minimiser la fonction de coût, ce que vous voulez, c'est maximiser cette quantité. Ça veut dire quoi? ça veut dire que vous voulez vous débrouiller pour que sur la sortie qui est la bonne sortie, d'accord, donc votre réseau, il a différentes sorties possibles. Si vous avez un XI, vous avez une sortie particulière YI où vous aimeriez que la réponse soit la plus grande possible. Cette sortie particulière, c'est la sortie, ce que j'ai écrit comme ceci. Et bien, vous voulez qu'elle soit maximum. Donc, dire que minimiser ça, ça revient à maximiser la quantité qui est à l'intérieur. Donc, vous avez envie de maximiser cette quantité. Et puis, il y a une composante ici qui est le signe moins. Ça, c'est pratiquement égal au max des ZY' de X sur tous les Y'. Pourquoi ? Si vous avez une composante dans cette somme, qui est la plus grande, vous prenez l'exponentielle, boum, ça va complètement dominer. Vous allez sommer, la somme va être essentiellement égale à l'exponentielle de la plus grande valeur. Vous prenez le log, vous avez un log d'une exponentielle, ça vous redonne la valeur. Donc autrement dit, le log d'une somme d'exponentielles comme ceci, c'est pour ça qu'on appelle ça un soft max, c'est à approximer, sauf que ça c'est une fonction différenciable, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup au max des valeurs. Et donc si vous voyez ça comme ça, votre fonction de coût, qu'est-ce qu'elle calcule? Elle regarde en fait la différence entre l'observation à la valeur YI et le max de toutes les valeurs sur toutes les sorties possibles. Et ce que vous voulez, c'est que la différence soit la plus grande possible. Donc si le max est égal ici à YI, ça fait 0, ça marche. Mais si le max est différent, c'est-à-dire que vous avez un maximum ici pour une autre valeur qui n'est pas la bonne valeur, eh bien ici, vous allez avoir quelque chose de négatif. Et donc, si vous mettez encore votre signe moins, vous allez avoir une grande quantité. Donc, qu'est-ce que ça va avoir tendance, cette fonction de coût? Vous allez regarder toutes vos sorties de vos réseaux, essentiellement l'optimisation. On va regarder quelle est la plus grande sortie. Si la plus grande sortie, ça correspond au bon YI, vous avez gagné. Pas la peine de changer le θ. Si la sortie qui est la plus grande, ce n'est pas égal à la sortie indiquée par la donnée, alors votre fonction de coût va vous dire « aïe, vous avez une grosse erreur et donc il faut updater le θ ». D'accord ? Donc ça, c'est la vision intuitive mais qui fait vraiment que l'optimisation va fonctionner. Maintenant, encore une fois, on peut sortir de ça et voir ça comme je l'ai fait dans le cadre bayésien ou, pardon, de maximum d'invraisemblance, où en sous-jacent, on a optimisé l'explication des données à partir d'une densité de probabilité calculée à partir du réseau. Donc, ce qu'il va falloir maintenant faire, vous avez une fonction de coût Lθ qui est maintenant une fonction de coût qui est bien régulière, qui est différenciable, il n'y a plus aucun problème de discontinuité, on a en sous-jacent régularisé le problème à travers ces calculs de densité de probabilité, et tout le problème du réseau de neurones, ça va être d'optimiser le θ, autrement dit trouver les poids et les biais du réseau de neurones qui vont minimiser l'erreur. D'accord ? Donc ça c'est le parcours qui permet de comprendre comment on fait cette optimisation. Je vais vous donner juste le cas particulier de la régression logistique qui utilise ce principe-là. Alors, la régression logistique, vous pouvez voir ça comme un réseau de neurones à une seule couche. Ça consiste à calculer la sortie Z, ici à partir de l'entrée X, avec tout simplement des combinaisons linéaires, avec des poids différents à chaque fois, Donc c'est quelque chose de très simple. Autrement dit, Z, c'est un opérateur, comme ceci, qui est appliqué sur X plus un biais. D'accord ? Une autre manière de le voir, c'est que pour chacune des sorties qui correspond aux différentes classes, la coordonnée Z indice Y, ça va être X qui va être calculé avec un produit scalaire avec un certain poids Y plus B. D'accord ? Là, je suis simplement en train de dire que ma matrice W, je l'ai multipliée par mon vecteur X, et les WY, c'est les différentes lignes de ma matrice. Et donc, c'est X fois ça, c'est-à-dire c'est le produit scalaire plus le biais. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est faire de la classification à partir des sorties en choisissant le meilleur W. Donc ça, c'est l'algorithme de régression, de classification ou par régression logistique, oui. On appelle ça de la régression logistique, mais logistic regression, mais je ne sais pas si c'est Q en français, mais c'est plutôt un algorithme utilisé pour comme un algorithme de classification. Donc à partir de ceci, on va calculer la densité de probabilité. La densité de probabilité, ici le θ, il correspond à la matrice W, l'ensemble des paramètres de mon problème, c'est tous les poids de la matrice W. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver le θ qui va minimiser la somme sur toutes les données du Z de Y. Donc ici, ça va être les produits scalaires, les XI, produits scalaires avec les W, plus B. Vous avez ici ce terme-là, moins la somme sur... moins le log de la somme des Y, et puis il y a les exponentielles des X produits scalaires avec Y prime, plus B. Alors, géométriquement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je vais le montrer en deux dimensions. Vous avez les différentes directions. Vous voyez les WY. WY, il a la même dimension que X. Donc WY, il vit dans l'espace des X. Donc si X est dans RD, c'est des données de dimension D. WY, c'est le poids, les vecteurs de poids, ils sont dans RD. Vous avez les différents WY. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'essayer de choisir au mieux ces directions de manière à ce que les données qui correspondent à la classe Y s'accumulent dans cette direction. Qu'est-ce que fait un classificateur logistique? Ce qu'il va essayer, c'est de maximiser ceci. Autrement dit, il va essayer de maximiser le produit scalaire entre le XI et le Y qui correspond au WYI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que XI est allongé et quasiment collinéaire avec ce vecteur. Et surtout, ce vecteur XI, il ne faut pas qu'il soit collinaire avec les autres vecteurs. Donc vous avez une direction, il faut qu'il s'allonge le long de cette direction et qu'il soit le moins allongé possible le long des autres directions. Et donc, qu'est-ce que fait un classificateur logistique? Il choisit les différents vecteurs W de manière à ce que les coefficients de chaque classe soient alignés avec ces vecteurs. Alors, si vous êtes dans le cas où il n'y a que deux classes, eh bien, à ce moment-là, vous allez avoir deux directions, la direction de la classe 1 et la direction, je ne devrais pas le mettre comme ça, et de la classe moins 1, et entre les deux, vous allez avoir un hyperplan séparateur. Et là, on retrouve l'idée d'un classificateur linéaire qui va choisir l'hyperplan séparateur. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça se débrouille pour que les valeurs soient les plus allongées dans cette direction ou dans cette direction, c'est-à-dire le plus à gauche ou le plus à droite possible. Qu'est-ce qui se passe si vous avez une erreur? Si vous avez une erreur, c'est que, par exemple, ici, vous aviez de ce côté-là la classe 1 et là, la classe moins 1, et que par erreur, eh bien, vous avez un point de la classe moins 1 qui va à gauche ou inversement. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous avez une erreur. C'est-à-dire que le max, au lieu qu'il soit dans la bonne classe, il est de l'autre côté. Et la pénalisation induite par la régression logistique ici, c'est quoi? C'est la différence entre les deux. La différence entre les deux, ça va être la différence entre le résultat obtenu par la classe 1 et la différence entre le résultat obtenu par la classe moins 1. Autrement dit, ça va être Z1 de X moins Z moins 1 de X. Ici, comme vous avez pris W moins 1 qui est à l'opposé de W1, c'est le vecteur inverse, ça c'est W moins 1 et ça c'est W de 1, eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Si vous avez un point qui est de l'autre côté, essentiellement ce que vous mesurez, c'est la distance pour le ramener dans le bon côté. Et donc vous pénalisez la fonction de coût, elle va pénaliser les erreurs par la distance à la frontière. Et ça, c'est quelque chose qui est très similaire en fait à ce que fait un support vector machine, un SVM. Quand vous avez des erreurs, comment vous allez pénaliser ces erreurs? Vous pénalisez ces erreurs par la distance à la frontière, de manière à essayer de les ramener le plus possible vers la frontière. Éventuellement, si votre problème n'est pas séparable, vous n'allez pas trouver un hyperplan qui sépare parfaitement, mais au moins vous aurez trouvé l'hyperplan pour lequel toutes les erreurs sont, les plus proches possibles des frontières. Donc, on voit dans ce cas particulier de la régression avec simplement deux classes que faire ça, ce n'est pas très loin de faire ce qu'on fait quand on fait un SVM où on minimise la marge, ou pardon, on maximise la marge entre les deux classes. Donc ça, c'est une autre boucle qu'on peut voir comme ça. Et donc ça, c'est un des classificateurs qui est très utilisé quand vous avez directement les données. Donc la différence entre un classificateur linéaire et un réseau de neurones, bah, c'est toutes les couches entre intermédiaires. Et je voudrais terminer là-dessus en faisant quelques commentaires sur les challenges. Donc, un réseau de neurones, il part de X, par exemple une image, on s'en fout, X, et puis il y a les différentes couches, qui à chaque fois, donc une couche XJ, elle est calculée à partir d'une couche précédente, on l'a vu, avec un opérateur appliqué à XJ-1, plus un biais et le tout transformé par une non-linéarité. Donc vous allez faire ceci jusqu'à une couche YJ qui va être une certaine fonction globalement de X. D'accord? Et puis à la fin, essentiellement ce que vous allez faire, c'est un classificateur, une régression logistique. C'est-à-dire que vous allez réagréger tout ça avec un opérateur linéaire pour définir les différentes classes Y. Et puis, ces différentes classes Y, vous allez, là, vous avez des valeurs, vous allez transformer en probabilité avec un softmax. Et une fois que vous avez vos probabilités avec le softmax, c'est-à-dire les pθ de y sachant x, vous prenez le max, la valeur maximum, et ça va vous donner le y tilde que vous voulez. Donc ça, c'est l'architecture. Donc quelle est la différence entre un réseau de neurones et un algorithme qu'on aurait fait un peu plus à la main, où on aurait pris le X, on aurait extrait en quelque sorte des caractéristiques de X. Donc phi de X, c'est un grand vecteur de valeurs, comme ceci. Donc c'est la couche, l'avant-dernière couche du réseau. Eh bien, ça, on aurait pu le faire à la main, par exemple en prenant des images, en extrayant des contours, des coins, etc. Et puis à la fin, en faisant une classification linéaire. La différence avec le réseau de neurones, c'est que le réseau de neurones, il va apprendre en quelque sorte ses features. Ce vecteur de structure informative sur le X, il va être appris à travers l'optimisation de toutes ces matrices, autrement dit du θ. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on optimise conjointement la représentation des données et le classificateur. Alors, l'avantage, c'est que c'est très général et qu'on utilise assez peu d'informations a priori. On utilise quand même l'information a priori, elle est dans l'architecture qui va permettre de calculer ce phi de x. Mais évidemment, il vous faut énormément de données parce qu'au lieu d'avoir simplement comme paramètre la dernière matrice de classification, maintenant, vous allez avoir des centaines de millions de paramètres qui sont tous les paramètres du vecteur phi de x que vous calculez. Donc, le dernier cours... la semaine prochaine... J'ai pas mal, un certain nombre d'annonces. Donc, je l'avais dit, la semaine prochaine... Le cours va être double, et donc je vais terminer sur l'aspect plutôt optimisation. Il y a quand même un très bel algorithme pour implémenter cette descente de gradient, c'est l'algorithme de rétropropagation du gradient qui est quand même assez joli, et on verra aussi les aspects de descente de gradient stochastique, et essentiellement le cours finira là-dessus. Alors, ces cours, et je voudrais maintenant une seconde parler des challenges. Ces cours sont un peu particuliers parce que, en particulier pour les élèves de M2, l'idée des cours ici, c'est d'enseigner, de montrer un peu l'interface avec la recherche et donner des éclairages sur le domaine, qui évidemment change d'année en année. Donc, il y a une déconnexion entre, d'un côté, le cours, et de l'autre côté, les challenges. Mais cette déconnexion, elle n'est pas complète. En fait, l'idée du cours-là, donc, c'est de vous montrer l'état de l'art, et vous le voyez en particulier à travers les séminaires. Donc, il y aura juste après un très beau séminaire de Yann Olivier sur l'apprentissage par renforcement, notamment qui est à la base, par exemple, du jeu de Go, qui a, comme vous le savez, gagné le championnat du monde, mais qui est aussi très utilisé dans les véhicules autonomes, etc. Ce sont des très belles idées pour la classification. Donc ça, c'est du côté de l'état de l'art. L'idée des challenges, c'est pour vous de vous comporter comme des chercheurs, c'est-à-dire d'aller chercher partout l'information pour résoudre votre problème. D'accord ? Et au moment de l'oral, donc ça, l'oral est réservé seulement pour les élèves... de M2, en particulier du MBA, ce qu'on attend de vous, c'est vraiment de faire une présentation scientifique. Il faudra que vous veniez avec votre rapport qui explique en quoi ça a marché, en quoi ça n'a pas marché. Vous aurez votre score qui vous est donné par votre site web, mais ce n'est pas, vraiment pas le plus important. Ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi le problème éventuellement est difficile, quel est l'échec ou pas de votre méthode. En sous-jacent dans toutes ces approches, vous avez dû, et je vous conseille vraiment d'aller voir l'exposé de Pierre Courtiol qui a été fait en février dernier, donc c'est sur le site web. En sous-jacent, il va vous falloir définir un vecteur de descripteur que vous pouvez éventuellement calculer avec un réseau de neurones, mais dans ce cas-là, il va vous falloir choisir l'architecture, et cette architecture, elle devra être optimisée par rapport à votre problème. Ou alors, parce que vous n'avez pas assez de données, ce qui est très souvent le cas, il va vous falloir calculer ce phi de x à partir d'informations a priori sur le problème. Donc, essayez de construire ce vecteur de features. Dans le x, vous avez des informations qui sont utiles pour calculer le y, mais il y a des informations qui sont complètement inutiles. Par exemple, si vous voulez faire une reconnaissance d'objet, que la bouteille soit là, là ou là, on s'en fout pour reconnaître que c'est une bouteille. Donc, a priori, la position est une information inutile, ça veut dire que vous avez intérêt à l'éliminer de manière à réduire la dimensionnalité de votre vecteur phi de x, autrement dit, vous allez construire des invariants. Donc ça va être tout le sujet, notamment du cours de l'année prochaine, qui va tourner autour de la structuration de ces réseaux de neurones et de ces notions d'invariants et de parcimonie. Mais là, ça va être à vous de le faire, d'accord ? Et inversement, de découvrir les sources d'informations dans x qui sont importantes pour estimer le y à partir de votre régression finale, et donc de construire ce phi de x. Donc c'est tout ça qu'il faut faire, et puis il faut choisir les algorithmes. Des algorithmes, vous en avez beaucoup de possibles. Encore une fois, il y a les réseaux de neurones, mais c'est de loin pas les seuls, et encore une fois, ça ne marche pas dès qu'on n'a pas assez de données. Mais vous avez d'autres algorithmes, comme régression logistique tout simplement, ou des arbres de décision, ou des algorithmes de boosting, etc. Donc à vous d'acquérir la culture suffisante pour faire ce choix, et à la fin, vous m'expliquerez tout ça dans votre rapport. Voilà, donc ça, c'est pour les oraux. Vous recevrez un email qui vous réexpliquera tout ça. Et voilà, donc on va s'arrêter là. Et donc, juste après, il y aura la présentation de Yann Olivier sur l'apprentissage par renforcement. Merci.